écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Benoît Castillon de Perron.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Benoît Castillon de Perron. Merci d'être avec nous. Alors c'est pour la deuxième fois, puisque nous nous sommes déjà vus et avons déjà reçu le 23 octobre 2020. Nous avions changé à l'époque à propos de ton roman « Mourir avec la rivière » qui était paru en 2018.
Oui.
Et aujourd'hui, nous te recevons pour échanger avec toi et partager avec les auditeurs sur ton roman qui s'appelle Hugo comme Hugo, paru en 2022 aux éditions du Petit Véhicule.
Oui.
Voilà. Alors, la fois précédente, on avait posé la question fétiche, quelle est la place de l'écriture dans ta vie ? Mais comme on a déjà eu la réponse, aujourd'hui, on va changer. À la fin du livre, hein, il est indiqué que donc ton roman navigue entre roman noir et autofiction. Et la question un peu pour lancer en tout cas nos échanges, c'était quelle était l'intention de l'auteur en écrivant justement ce roman entre roman noir et autofiction ? Voilà.
Alors, je ne savais pas que ça deviendrait un roman noir à vérité, parce que j'étais parti d'abord dans quelque chose de très concret, de très réel, qui était une enquête. Et c'est petit à petit une enquête, en plus, qui s'est étalée sur un temps long, puisque l'intérêt pour le personnage principal me vient du réel et me vient de l'enfance. En 1988, je dois avoir à peu de choses près 32 ou 33 ans, je pars faire une première enquête autour de ce personnage mystérieux qui s'appelle Jeanne Hugo. Les choses ne sont pas encore complètement mûres. Je repars en 2016 faire un complément d'enquête, beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment un livre qui prend sa source très très loin. Et c'est sur place, à Poigny, dans l'Yonne, dans le village d'enfance de ce personnage bien réel au départ, que la matière qui s'impose à moi devient petit à petit celle d'un roman noir. Et c'est en cela que... et donc, petit à petit, je me dis, bon, j'ai du réel, mais j'ai aussi quelque chose de très noir. Je vais rajouter de la fiction là-dedans et je vais être dans quelque chose bon, que je vais découvrir en écrivant, bien évidemment.
D'accord, merci beaucoup.
Alors justement, dans le train de retour, c'est comme ça que démarre le roman, Jean se remémore l'enquête qu'il a démarrée une vingtaine d'années plus tôt pour percer le mystère de la vie de Jeanne, la cuisinière bien-aimée de son enfance. Grâce à quelques lettres que sa grand-mère lui a laissées, il part sur les traces de Jeanne qui le conduisent dans l'Yonne. Au cours de sa recherche, Jean croise la petite et la grande histoire. André nous lit un premier extrait.
C'était pendant son enfance. La vieille cuisinière bourguignonne habitait la Poterie, une antique demeure angevine perchée au-dessus d'une rivière. Avec Jean, elle partageait le veuvage et la solitude de Mad, sa grand-mère. Jean avait déjà tant écrit à propos de ce monde disparu qu'il n'en eut plus rien dit s'il n'était resté gravé en lui son éternelle affection pour Jeanne. Une si puissante aura de mystère entourait la vie de ce personnage qu'il n'avait pu jusque-là que l'effleurer, réservant au fond de lui-même le peu qu'il en savait dans le but d'enrichir au fil des ans le puzzle plus complexe qu'il étalait devant lui maintenant. À vrai dire, l'histoire de Jeanne ne résidait pas en une seule image, mais dans de courts extraits de films, longs métrages incomplets, qu'à la façon d'un dieu, il eût voulu reconstituer. Au début, un tel projet avait pu lui sembler facile, tant continuait de vivre en lui le portrait de la vieille dame. Fermait-il un instant les yeux, il distinguait la silhouette toujours vêtue de noir, les cheveux blancs, les bons yeux gris, comme si elle était là. Il la voyait. Il la sentait trottiner à ses côtés jusqu'à ce que, remontant jusqu'au bout l'allée sablonneuse du parc, ils s'arrêtassent tous deux à la barrière blanche d'où, lorsqu'il était petit, ils regardaient chaque jour ensemble passer les trains. Puis ils repartaient. « Tu viens, mon petit coco ?» C'est à l'intérieur de ces quelques minutes de grâce, à travers ces simples mots, que s'était construit à jamais leur amour. Sans doute, y avait-il quelque chose d'absolu dans ses sentiments pour la vieille dame et son fils Hubert. « Tiens, c'est pour toi !»« Ça, c'est gentil, mon petit coco !» Délicatement, la vieille dame pose le bouquet de fleurs des champs sur le rebord en tomettes roses. C'est alors que, restant planté devant elle, « Dites-moi, Jeanne, vous vous appelez vraiment Hugo comme Hugo ?»« Oui, lui répondit-elle avec conviction. » De retour à Paris, il avait appris la mort de Jeanne. Jean tenait entre ses mains le télégramme reçu par Matt, sa grand-mère, le 17 juillet vers 11h. « Hugo, Jeanne, décédé. Prière faire connaître urgence. » Intention sépulture, le directeur. La première fois qu'il avait lu ces lignes, il avait trouvé ça bizarre, cette faute d'orthographe du T ajouté à Hugo.
Alors tout à l'heure, on a parlé de réel et de fiction. André vient de faire une lecture d'un passage où on parle de bizarrerie entre guillemets. Et alors peut-être pour faire le lien, ce qui aussi nous a étonné en tant que lecteur et lectrice, c'est cette manière de relier la question du passé, du présent, et puis surtout la question de cette recherche autour de comment Jeanne Hugo et le lien qui tout d'un coup surgit dans le roman à propos des affaires qui se sont passées dans Lyon et qui ont défrayé la chronique dramatiquement, voilà. Et donc, on avait envie de t'entendre sur cette question, qu'est-ce qui, dans le schéma d'écriture, entraîne ce genre de lien, voilà.
Merci pour cette question, parce qu'elle est effectivement quelque chose qui s'est imposé à moi. En fait, j'arrive là-bas, j'arrive dans ce village, je démarre cette enquête... Et je n'ai qu'un document de départ qui est une carte d'identité qui est sur la couverture du livre. Et vous avez vu la date, peut-être, si vous avez regardé de près, c'est 1943 au Lyon d'Angers, donc tout à fait éloigné des lieux d'enfance. Mais en remontant à la piste de cette carte d'identité, je rentre forcément dans la période mystérieuse où Jeanne disparaît, je dirais, complètement du champ d'observation de qui que ce soit. On ne sait pas, on ne connaît pas son passé. On ne connaît rien avant 1943, elle est née en 1901. Et au fond, je m'aperçois qu'elle est partie en catastrophe du village en 38, en 39, 40 derniers carats. C'est à peu près le résultat de mon enquête. Et ça me fait rentrer dans l'histoire de France et dans l'histoire de France dramatique. Bon, très bien. En même temps, je suis allé interviewer un vieux paysan qui m'a donné des pistes à propos de Jeanne. Cette interview arrive assez vite dans le livre. Et c'est lui qui part dans un espèce de délire. Il croit que je viens l'interviewer à propos de toute autre chose. Il me parle de faits divers monstrueux qui se sont passés dans le village et dans la région de Lyon. Et ça devient un sujet, pour moi, de roman. Ça devient un apport essentiel. Pourquoi est-ce que je fais le lien? Ben, je fais le lien, finalement, entre la dimension de personnages importants dans le livre que j'ai appelé les brasiers, hein, qui sont des collabos, qui sont du côté du noir, qui sont du côté de l'ombre, qui sont du côté des salauds, véritablement. Et puis, j'ai fait le lien entre voilà, cette puissance du mal, cette puissance de l'ombre, et puis ce qui rôde autour du village, qui semble rôder autour du village depuis cette époque de l'occupation, et qui se concrétise sous la forme de l'affaire Émile Louis, sur l'affaire des séquestrés de la Poignée. On dirait que dans ce village, les puissances de l'ombre se sont déchaînées. Voilà, ça m'est vraiment tombé dessus, ça. C'était très, très puissant. Puissance de l'ombre, auxquelles répondent évidemment des puissances lumineuses dont vous allez peut-être me parler.
Merci
Alors,
beaucoup.
Alors, avant, on va parler de l'objet, parce que donc ce roman, enfin oui, a un format inhabituel. Mais pas seulement, il y a une reliure Cousumain. Et en fait, ça nous a fait penser à un carnet de voyage, ce format. Un carnet de voyage dans le temps, dans l'espace, avec des allées et venues, des moments du présent, du passé, mais sans respecter vraiment la chronologie d'ailleurs. Enfin voilà, un peu comme un carnet de voyage. Donc, est-ce que c'était un peu l'idée ou...
Alors, c'était pas l'idée, mais c'est une belle idée qui vous est venue en tout cas. La parution de ce livre a été tout à fait improbable, puisque j'ai rencontré mon éditeur dans un jardin de Nantes un soir, mais vraiment totalement par hasard. Ce livre était un peu en stand-by et il a lu « Mourir avec la rivière » pour lequel vous m'aviez interviewé. Il avait adoré ce livre et il m'a dit « Est-ce que tu as un livre qui reste en rade ?» Je lui ai dit « Oui ». J'en ai un, il m'a dit, je te le prends. Bon, voilà. Et c'était un peu de la folie. Bon, enfin, il l'a lu, il l'a aimé, il l'a pris. Et la particularité de cet éditeur, de ces éditions du Petit Véhicule, c'est qu'il travaille beaucoup, le plus souvent, entre poètes, écrivains, enfin, beaucoup des poètes d'ailleurs, et des peintres, des photographes, et que l'objet livre... Je ne veux pas parler à la place de Luc Vidal, hein, qui est le directeur des éditions. L'objet livre, pour lui, doit être beau. Et donc, il y a cette union de la poésie, de la photo, de la reproduction photographique ou de peinture. Et puis, cet objet livre qui est cousu à la japonaise sur un très beau papier. Mais je dois dire que j'ai été enchanté de le voir apparaître comme objet.
Eh ben, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'il est... C'est assez rare de voir ce genre de...
Oui.
De présentation, on va dire. Alors, c'est le moment de la pause musicale. Benoît a choisi le Requiem in Paradisum de Gabriel Fauré.
Thank you.
vous êtes sur Jet FM 91.2 dans l'émission Écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Benoît Castillon-Duperron pour son roman Hugo comme Hugo. Nous allons continuer avec une deuxième lecture, André.
Jean avait gravi la colline, puis toqué ce matin-là à la porte de la maison basse de M. René Roland, la mémoire d'Apoigny. Vieil homme à la peau rouge tannée, dont les cheveux roux taillés à la serpe rendaient encore plus aigus ses traits de fouine, ils rentrèrent dans la maison. « Bon, rappelez-moi donc votre affaire. » Ça n'est que lorsque Jean épela pour la troisième fois le nom de Jeanne Hugo qu'une lueur apparut soudain dans les yeux du rouquin. « Pour sûr que je la remets, votre Jeanne. Jeanne Hugo, c'est là que je la revois le mieux. C'était en 21, l'année d'ouvrant aux 20 ans. Je me souviens bien de ce bal de la Saint-Fiacre. Ce soir-là, je l'ai sacrément fait danser, votre Jeanne. Ah, si vous aviez vu comme elle était belle. Fille de garce, sûre qu'elle était amoureuse. Le responsable, c'était un grand de ma classe. Le fameux Robert Brasier. Ce nom-là vous dit pas grand-chose, bien sûr. Pourtant, le gars Brasier n'était pas n'importe qui. Pensez donc, en sus que c'était le fils de la mère Pauline, la patronne du relais Saint-Fiacre, monsieur était devenu ingénieur à Paris, chez Citroën, s'il vous plaît. Le père Hugo avait pourtant dit à sa fille que le Robert était un violent, un excité, et qu'à la ville, il se mêlait de ce machin des croix de feu et faisait ben trop de politique. Mais la Jeanne, cause toujours, son bonhomme, elle l'avait dans la peau. Ça d'autant plus qu'il profitait bien d'elle quand il revenait les week-ends et qu'il lui avait promis le mariage. Alors les bémols des uns et des autres, vous pensez bien qu'elle s'en fichait. Raison pourquoi, cher monsieur, elle attendit son Robert tant d'années. Ah, ça, elle aurait bien pu l'attendre toute l'éternité. Dieu sait pourtant que tout le monde lui avait dit qu'elle était trop bonne, qu'elle se faisait rouler dans la farine. Mais votre Jeanne n'écoutait rien du tout. Pendant ce temps à Paris, vous pensez si le Robert se fichait bien d'elle? Ce crénom de nom de fichu histoire dura plus de 15 ans jusqu'au moment où, c'était vers la fin 38, je crois, ce qui devait arriver arriva. Reculant alors sa chaise, il imita, grimaçant d'un sourire, la rondeur d'un ventre. Allons bon, le vieux rouquin voulait dire que Brasier avait engrossé Jeanne. S'agissait-il alors d'Hubert? En 38, voyez-vous, la guerre n'était point louée. C'est pourtant là que cette saleté de Robert voulut reprendre le Saint-Fiacre. À l'époque, tout le monde trouva ça bizarre. Fallait-il pas qu'il soit sacrément ennuyé de quelque chose pour changer de vie d'un coup et revenir soudain au village? Et ma pauvre Jeanne, que devint-elle là-dedans? Ah, ça, répondit la fouine, d'un ton génial. Sûr qu'on pouvait rien lui reprocher, mais tout compte fait, elle a bien fait, elle aussi, de partir. Partir? Ben oui. Avec le gamin d'un collabo dans les bras, comment vouliez-vous qu'elle reste au village? D'ailleurs, dès la fin 40, elle et son mouflet, on les a plus jamais revus. Jamais? Oh, je vous cause du temps de la guerre, bien sûr. Mais quand tout s'est calmé, ils sont revenus tous les deux. Votre Jeanne, elle a toujours été très bien accueillie au village. C'est qui nous est toujours resté, sa beauté et sa droiture.
Alors, Benoît, tout à l'heure, on a parlé de la part des ombres, de la force des ombres. Tu invitais éventuellement à ce qu'on aille sur justement aussi la part des personnages plus lumineux. Alors, Jeanne, sans conteste, en fait vraiment partie. Hein, c'est très, très porté. Et là, on voit bien que c'est assez central. La fouine, quand on est lecteur, ne fait pas partie particulièrement des forces très lumineuses. En tout cas, ce n'est pas ce qui en est dit. Par contre, on y rencontre Marjorie, hein, oui. Et puis cet autre homme que tu rencontres aussi. Alors, il y a Bob aussi, hein, oui, un vieux copain. Oui. Alors, qui, de ma place, me semble mi-ombre, mi-lumière, hein, on a quelque chose autour de ça. Donc voilà, je ne sais pas comment, comment toi tu qualifierais ou tous ces personnages à qui tu as souhaité prêter des vertus plus lumineuses qu'à d'autres, en tout cas.
Alors, oui, c'est vrai que la puissance du noir était très grande là-bas. Enfin, je la sentais peser hein, quand même beaucoup dans ce joli village, mais je la sentais peser hein, autour de Jeanne. Il est certain qu'elle a fui, elle a dû partir en 1939. Je ne pense pas trahir le livre en disant que cette fuite était assez courante dans la mesure où elle s'est retrouvée avec un enfant non accepté par le père. Bon, ça, c'est dit clairement au début du livre, donc je ne trahis pas la suite du livre. Donc, elle fuit, elle part, et elle part devant toutes ces puissances négatives. Mais en même temps, j'ai fait la rencontre, lors de l'enquête, de personnages extrêmement lumineux, effectivement. Alors, il y avait La Chapelle aussi, qui est un personnage extrêmement sympathique, un cultivateur que j'ai rencontré là-bas. Il y en a beaucoup qui sont morts depuis, mais lui est mort. Mais bon, dans le livre, hein, il est très joyeux, passionné de musique. Et c'est avec lui que j'ai pris mon unique cuite au cidre. Ça a été assez long, mais on y est arrivé en partant à 4h ou 5h du matin. Voilà, donc, et c'était une respiration. Ces personnes-là, c'était vraiment une respiration. Et j'ai toujours beaucoup aimé les personnes de la campagne, les paysans. Vous avez vu dans la rivière, dans Montréal, avec la rivière, c'était déjà très présent. J'ai toujours eu un bon contact avec ces gens-là, avec les paysans, les vrais paysans. Alors, La Fouine, c'est vrai, il est un peu ambigu, il est un peu... le gars, bah, c'est son nom, La Fouine. Hein, on sent qu'il est un peu curieux des trucs, là, comme ça, qui sont des choses un peu bizarres, qui se sont passées, un peu... aller respirer les mauvaises odeurs et à s'en délecter un petit peu, ce qui n'est pas du tout le cas de La Chapelle. Madame Marjorie, bon, est un personnage aussi bon, qui dirigeait la maison d'hôte où je dormais, voilà. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est qu'elle était passionnée de romans policiers, donc effectivement, je l'ai fait rentrer dans mon roman. Quant à Bob. Bob est un personnage vraiment... Alors, il a la part vraiment fictionnelle du livre, lui. Bob est totalement inventé. Je me suis dit que ça serait pas mal de récupérer un personnage qui permettrait justement de synthétiser toute la partie de la recherche autour des disparus de Lyon, autour de cette affaire Émile Louis qui n'est toujours pas complètement résolue à l'heure actuelle, de l'histoire du gendarme Jambert qui est également présente dans le livre. Il y a beaucoup de mystères autour de cette histoire. Moi, ça me passionnait et j'ai eu vraiment envie de la synthétiser en mettant donc un roman qui se noie, donc qui se déroule finalement à côté de l'enquête ou le carnet de voyage, comme vous disiez justement tout à l'heure.
Oui, d'ailleurs, on apprend, la Deuxième Guerre mondiale, peut-être moins la collaboration. Bon. L'affaire de Lyon, bon, pour moi, c'était un peu...
Lointain.
Oui, très lointain.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'on ça donne envie d'en savoir plus.
Oui.
Et c'est vrai que ça fait penser à ces affaires-là qui sont... plus ou moins étouffé, plus ou moins...
Et vous savez, c'est très étonnant parce que quand je suis allé faire une lecture très récemment à Apoigny, où j'ai retrouvé des gens qui avaient témoigné, etc. Et puis, il y avait beaucoup de gens du village qui étaient là. Et j'ai senti hein, chez les gens que c'était encore très présent en eux et qu'ils étaient, très choqués de choses qui avaient été étouffées. En particulier, il faut savoir que l'enquête qui a été menée sur l'affaire Émile Louis a été jusqu'au bout par un gendarme Jambert. Je le dis dans le livre, qui est mort, soi-disant suicidé, de 2 balles. Il faut quand même le faire, de se suicider de 2 balles. Et c'est resté, à l'heure actuelle, un grand mystère. Voilà.
Oui, oui. Moi, juste une remarque, peut-être pour finir, parce que voilà, le temps tourne. C'est le lien avec la rivière, quoi. Hein, pour nous qui avons lu La Rivière, évidemment, on a l'impression, pas de lire la suite, mais de... Voilà, d'être en terrain connu, quoi. C'est vrai que c'est plutôt agréable, quand même.
Merci.
On retrouve des personnages qu'on avait déjà...
Alors, à 2 titres, parce que finalement, oui, c'est un zoom Il y a un effet
ça,
de,
c'est un effet de zoom.
Il y a un effet de zoom sur un personnage sur lequel je restais sur ma faim, qui est Jeanne, et qui apparaît au début de la rivière. Et effectivement, je creuse ce que je n'avais pas pu faire dans Mon lien avec la rivière. Et la deuxième raison pour laquelle vous retrouvez la rivière, c'est qu'il y en a une à Poigny qui passe, et elle est présente plusieurs fois dans le livre, c'est Lyonne.
Ben oui.
Hein, voilà.
Ouais. Et il y a Hubert aussi.
Et il y a Hubert, voilà, ouais, tout à fait.
Et bien, la pêche.
Qui n'a pas bien fini.
Et la pêche un peu, oui. En filigrane, en filigrane.
Mais c'est le fait d'avoir lu Mourir avec la rivière, en fait, qui nous fait faire ce genre de lien.
Est-ce que j'ai 30 secondes ?
Oui, oui, oui.
Parce que j'ai quelque chose que vous n'avez pas prévu et qui est vraiment extrêmement incroyable, qui est arrivé. Quand je suis allé faire la lecture à Poigny, il y a 3 semaines, à la fin de la lecture, il y a une vieille dame, 93 ans, j'ai appris son âge après, qui est venue me voir. J'étais dans la médiathèque d'Apoigny qui venait d'être construite, qui a été construite il y a très peu de temps. Et la vieille dame me dit « Monsieur, mais savez-vous où vous avez lu, où vous avez fait votre intervention ?» Je lui dis ben, « Je suis à la médiathèque. » Elle m'a dit « Non, vous êtes dans l'ancienne écurie du père Hugo, où il y avait son cheval, et regardez par la fenêtre, il y a la maison des Hugo. » Et effectivement, je connaissais la vieille maison qu'ils avaient reprise après l'incendie de la deuxième petite maison des Hugo. Et par la fenêtre, on voyait la maison des Hugo. Donc, cette boucle était bouclée.
Quelle coïncidence.
Ouais. Incroyable.
Voilà. Bon, alors, on va se quitter. On a vraiment là, du coup, très peu de temps. Juste, je ne sais pas, tu veux nous parler de tes projets ou pour le moment, c'est pas...
Bon, très rapidement, là, je suis tout à fait dans autre chose, dans un très gros livre, cette fois-ci, qui n'est pas un roman, qui mélange... philo, religion et voilà, métaphysique et histoire. Voilà.
D'accord.
Et donc, il y en aura pour un bout de temps avant de se revoir. Je suis désolé, mais...
D'accord. Alors, juste pour finir, donc, du 24 au 26 juin, Festival Fumetti. Alors là, c'est de la bande dessinée, mais enfin bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc, à Nantes, voilà. Donc pour conclure, Benoît a choisi la danse macabre de Camille Saint-Saëns.